Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Bonjour, comment faire vivre les lieux de mémoire de la Shoah ? 50 ans après la libération d'Auschwitz, où plus de 900 000 juifs ont été assassinés, nous irons à la rencontre des guides du plus grand site concentrationnaire nazi. Nous irons aussi en République tchèque, où le camp de Térésine tombe en ruine. Dans la deuxième partie de cette émission, nous serons en Catalogne et au Royaume-Uni avec les pêcheurs qui s'inquiètent pour leur activité. Voilà le programme. Bienvenue dans Accent d'Europe. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, plus d'un million cent mille personnes, dont 900 000 juifs, ont été tués sur le seul site d'Auschwitz. Et il y a 20 ans, l'ONU choisissait la date anniversaire de la libération du camp, le 27 janvier, pour marquer la journée internationale à la mémoire de toutes les victimes de la Shoah. Transmettre l'histoire alors que les témoins directs ne sont plus que quelques-uns est un défi. Il faut faire en sorte que l'éducation civique, la culture mémorielle empêche la répétition du pire. C'est ce qu'ont à cœur de faire tous ceux qui accueillent les visiteurs d'Auschwitz. Reportage, Adrien Sarlat.
Raconter l'horreur de la Shoah, Dorota en a fait son métier. Entre les baraquements de briques rouges de Birkenau, dans le froid glacial de l'hiver polonais, elle présente le cœur du camp d'extermination.
C'était un ensemble, il y avait une salle spéciale prévue au déshabillage, une salle où les gens étaient gazés, et ensuite la troisième partie située de plein pied, où les cadavres des personnes assassinées étaient incinérés, d'accord ?
La guide mène des visites sur le camp d'Auschwitz depuis plus de 27 ans. Au début de sa carrière, elle accompagnait surtout des familles de survivants et des rescapés venus se recueillir. Mais aujourd'hui, elle fait face à de nouvelles générations de visiteurs, de moins en moins informés sur l'histoire de la Shoah et dont le comportement aurait été inenvisageable quelques années plus tôt.
Ça n'arrive pas souvent, mais il y a parfois des gens qui font des graffitis sur le mur, qui laissent une date, un nom, prénom, qui essayent de prendre une brique comme souvenir ou prendre un morceau de fil de barbelé. Surveiller 400 ou 500 000 personnes qui venaient ici il y a 20 ans ou 25 ans, c'était beaucoup plus facile. Maintenant, l'année passée, c'était 1 800 000 personnes. C'est beaucoup plus difficile.
Déjà en 2019, le musée avait lancé une campagne pour sensibiliser les visiteurs au caractère solennel du site. Thomas Miraldo a formé ses équipes de guides à réprimander les touristes qui auraient des comportements inappropriés, à commencer par des photos dans des postures lascives ou amusantes, en décalage complet avec l'esprit du site.
On ne peut pas échapper au fait qu'aujourd'hui, les gens ont des smartphones et font des photos à Auschwitz, à Birkenau ou dans d'autres camps de concentration ou d'extermination. Nous devons apprendre à nous approprier cette réalité. Mais bien entendu, en tant que guide, on attire toujours l'attention des visiteurs sur le fait que les photos doivent être faites dans le respect de l'endroit des victimes d'Auschwitz et de Birkenau.
Certains visiteurs, au contraire, souhaitent approfondir leur visite mémorielle en s'aventurant au-delà des barbelés dans la petite ville d'Oświęcim, rebaptisée Auschwitz par les nazis. Avant la Seconde Guerre mondiale et l'occupation, plus de la moitié de sa population était juive. Désormais, la communauté a complètement disparu. Mais entre les allées du cimetière juif, Arthur Schindler met un point d'honneur à entretenir son histoire.
C'est nous, les responsables du musée juif de la ville, qui nous occupons du cimetière. Et on y mène plusieurs projets éducatifs pour les groupes de visiteurs.
Une façon de rendre hommage à la communauté qui a fait vivre la ville avant d'être massacrée par l'occupant nazi. Tous les descendants des familles enterrées ici ont été envoyés dans les camps ou ont fui à l'étranger.
Ici, on trouve les traces de personnes qui ont joué un rôle très important dans l'histoire de la ville d'Oświęcim. Ils étaient conseillers municipaux, médecins ou encore avocats.
En l'absence de communauté juive, la synagogue d'Oświęcim accueille désormais des juifs venus du monde entier, désireux de se recueillir dans cette ville si particulière pour leur histoire. Aurel, 20 ans, a fait le déplacement depuis Jérusalem.
Même s'il n'y a plus de communauté juive, c'est quand même un lieu qui est le plus important pour nous. Dans n'importe quelle génération et dans n'importe quel pays, même si on n'est plus là. On est juif et notre synagogue, elle est là et on viendra toujours la voir et se rappeler de nos ancêtres qui priaient ici.
Hormis le cimetière et cette petite synagogue, il ne reste rien de la vie juive qui faisait le poumon d'Oświęcim. Passionné par l'histoire de sa ville natale, Mirosław Ganobis a décidé de la raconter à sa manière, du fond de sa cave.
Bienvenue dans mon musée.
Son impressionnante collection de 4000 objets retrace l'histoire de la ville, de l'avant-guerre à la libération des camps. L'aboutissement d'un long travail de recherche et de collecte sur une quarantaine d'années.
J'ai recueilli les témoignages de personnes qui se remémoraient l'histoire de la ville, mais qui se souvenaient aussi de la Shoah, des camps de concentration. Et grâce aux souvenirs que j'ai rassemblés, je vais pouvoir retransmettre cette histoire aux nouvelles générations. Je fais en quelque sorte le lien entre les témoins qui nous quittent peu à peu et les visiteurs.
Une volonté de lutter contre l'oubli et de faire face au douloureux passé de la petite ville.
Avant d'arriver à Auschwitz, beaucoup de déportés sont passés par le ghetto de Theresienstadt ou Theresien en tchèque. Ce lieu a servi de camp de transit, mais il est aussi connu parce que les nazis en avaient fait un objet de propagande pendant la guerre en le présentant à la Croix-Rouge et au Monde comme un camp modèle. Dans cette petite ville tchèque de Theresien, située à une cinquantaine de kilomètres au nord de Prague, les bâtiments qui portent cette histoire sont en train de s'effondrer au grand dam des historiens et des survivants. Les explications d'Alexis Rosenzweig.
La toiture s'est déjà écroulée à plusieurs endroits. Certains des immenses couloirs sont bouchés par des débris. Il ne reste plus beaucoup de temps avant de pouvoir sauver au moins 5 des bâtiments historiques du centre de Theresien, une ville qui compte à peine 3000 habitants aujourd'hui. Le lieu condense l'histoire de la région et des plus grandes tragédies du XXe siècle. Et pourtant, ce patrimoine est en ruine, bâti au départ sous l'Empire austro-hongrois et utilisé en dernier par l'armée tchèque, avec encore un grand panneau rouillé à la gloire du pacte de Varsovie. Theresien, c'est le plus important lieu de mémoire de la Shoah sur le sol tchèque, ghetto et camp de transit utilisé pour déporter les Juifs d'Europe centrale, mais aussi de plus loin, celui où Ginette Kolinka a survécu à la fin de la guerre et où le poète résistant Robert Desnos est mort du typhus. Theresien, c'est aussi l'endroit où les nazis ont tourné en 1944 un film de propagande censé montrer au monde que les déportés dans ce ghetto étaient très bien traités, ce qu'ont cru et rapporté les représentants de la Croix-Rouge venus pour inspection. Environ 35 000 personnes sont mortes dans les conditions insalubres de Theresienstadt pendant la guerre et plus de 80 000 autres ont été déportés vers les camps d'extermination. La mairie de Theresien espère aujourd'hui que le nouvel accord récemment passé avec la région et l'État va permettre de financer les premiers travaux pour tenter de sauver ce lieu de mémoire en attendant de s'entendre sur les projets futurs en plus du mémorial déjà existant à l'endroit où se trouvait la prison de la Gestapo. Il y a 20 ans, un projet de campus universitaire avait été élaboré avant d'être abandonné. Aujourd'hui, la priorité, c'est de faire en sorte que les bâtiments ne s'écroulent pas.
Et de 7, hier dimanche, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a été réélu une 7e fois avec plus de 87% des voix à l'occasion de ce que la Commission européenne a qualifié de simulacre d'élection. Alexandre Loukachenko s'est imposé devant des candidats qui faisaient office de faire-valoir, tous favorables au régime. Les opposants ont fui le pays ou sont derrière les barreaux. La Biélorussie, qui est de plus en plus vassalisée par son proche allié russe et qui n'a pas hésité à aider Moscou dans la guerre contre l'Ukraine. Romain Le Maresquier, bonjour.
Bonjour.
Alexandre Loukachenko est donc aujourd'hui le plus ancien dirigeant des ex-républiques de l'espace soviétique.
Eh oui, il est au pouvoir depuis 1994 et à 70 ans, il va donc continuer de diriger d'une main de fer un régime considéré par beaucoup comme le plus autoritaire en Europe, son véritable opposant lors de ce scrutin présidentiel et pour cause. Il a été sans surprise reconduit pour un 7e mandat à la tête d'un pays dont le régime s'est encore plus durci depuis les précédentes élections. En août 2020, le scrutin frauduleux avait entraîné une contestation d'une ampleur inédite. Olga Gilbelova, docteur en sciences politiques et maître de conférences à l'université Bordeaux-Montaigne.
Souvent, quand on parle de Biélorussie, on parle d'une forme d'accord tacite qui existait plus ou moins avec les classes moyennes biélorusses, en tout cas qui a permis l'émergence de ces classes moyennes biélorusses qui pouvaient circuler à l'époque assez librement, qui pouvaient donc gagner leur vie assez facilement. Mais en échange, ils ne devaient pas manifester évidemment d'ambition politique. Et c'est ce pacte donc, qui, de point de vue de Loukachenko, a été rompu en 2020 quand beaucoup de citoyens biélorusses ont exprimé les revendications politiques.
Et avec la répression qui a suivi cette contestation, Romain, Alexandre Loukachenko a réussi à écarter toute forme d'opposition.
Oui, alors si certains de ses opposants ont été arrêtés et sont désormais en prison, d'autres sont tout de même parvenus à fuir, mais eux aussi sont en difficulté, comme le détaille Ronan Hervouet, sociologue, professeur à l'université de Bordeaux et qui mène actuellement des recherches sur les exilés biélorusses.
Dès l'automne 2020, des Biélorusses par milliers et dizaines de milliers même ont fui le pays par peur des répressions, par peur de l'emprisonnement, par peur des tortures, par peur des menaces sur leur famille. Et beaucoup sont arrivés en Lituanie, en Pologne, également en Géorgie. Ces personnes, au début, continuaient à participer à des formes de mobilisation, de manifestation, de soutien aux prisonniers politiques, etc. Mais rapidement, ils se sont rendus compte qu'ils ne se sentaient pas en sécurité, même dans les pays d'accueil. Ils avaient peur que leur mobilisation à l'étranger puisse nuire à leurs proches. Donc aujourd'hui, la mobilisation, l'action contre le régime apparaît extrêmement difficile à mener collectivement depuis l'étranger et même à l'intérieur du pays.
Si son adversaire de 2020, Svetlana Tikhanovskaya, considérée comme la chef de file de l'opposition en exil, continue de se battre, Alexandre Loukachenko a donc en fait les mains libres à l'intérieur du pays. C'est en revanche beaucoup moins vrai dans les relations extérieures romains.
Oui, alors s'il y a toujours avancé main dans la main avec la Russie de Vladimir Poutine, Loukachenko est aujourd'hui de moins en moins autonome. Olga Gilbelova.
Il y a une dépendance beaucoup plus importante qui s'est instaurée à l'égard de la Russie, la dépendance militaire, la dépendance stratégique, la dépendance économique qui existait déjà auparavant mais qui s'est beaucoup renforcée depuis 2022.
Alors, Alexandre Loukachenko va donc enchaîner un septième mandat, mais à 70 ans, il n'est pas éternel. Et s'il pourrait encore enchaîner un ou deux mandats, la question de sa succession se pose aujourd'hui, ce qui semble être la seule issue possible pour un changement de pouvoir à la tête de la Biélorussie.
Romain Lemaresqui, à bientôt. L'Union européenne veut restreindre de 79% le nombre de jours de pêche au chalut pour l'année 2025. En Espagne, pour contourner et éviter ces restrictions, les ministères concernés, au niveau national et aussi dans les provinces, viennent d'annoncer qu'ils allaient financer de nouveaux filets, des filets qui devront être plus fins. Mais cette solution fait débat, elle inquiète les pêcheurs et elle relance aussi la question de la protection des fonds marins en Méditerranée. Reportage Élise Gazangel.
Il est près de 16h à Barcelone et les bateaux de pêche au chalut de fond s'apprêtent à rentrer au port. Malgré l'annonce de l'UE d'une restriction de 79% de leurs jours de pêche cette année, un accord in extremis leur permettra finalement de travailler le même nombre de jours qu'en 2024. En échange, les pêcheurs devront adopter plusieurs mesures environnementales comme le changement de filet. José Manuel Juarez, patron de la confrérie des pêcheurs de Barcelone, explique.
Au début, on pensait que c'était une erreur, ça ne pouvait pas être vrai. Puis on a commencé à négocier, à faire pression. Et là, il semble que Bruxelles cède un peu. Mais avec des mesures aléatoires qui impliquent des investissements très importants, et si nous n'avons pas d'aide à ces petites entreprises, eh bien ce sera impossible de les respecter.
Sur le quai, une pancarte sur laquelle est écrit « En 2025, tu ne pourras travailler que 27 jours » rappelle les grèves du secteur en début d'année. Grâce à cette pression, le ministre espagnol s'est finalement engagé à financer deux nouveaux filets pour chacun des 560 chalutiers du pays et à relancer les négociations avec l'Union européenne pour limiter les restrictions du secteur. Pour Juarez, fils et petit-fils de pêcheurs, il y a surtout une erreur de méthode.
On devrait plutôt réunir autour d'une table de travail le secteur, le monde scientifique et le monde politique. Ce serait l'idéal et on arriverait à un accord. Mais sans dialogue, ils envoient juste des flèches envenimées et après, eh bien ça explose.
Après 11 heures en mer, Pau Huguet, 58 ans, revient au port avec son chalutier. Malgré l'accord et les promesses de financement, il ne décolère pas.
On se sent toujours arnaqué parce qu'on doit désormais remplir une série de critères encore plus importants. Et eux nous feront la faveur de nous laisser travailler. Mais les premiers intéressés à la préservation des fonds marins, c'est nous, les pêcheurs. On veut que la mer se régénère et travailler en fonction de ça. Mais on a l'impression d'avoir la mauvaise réputation de tout détruire alors que la pire pollution vient de la terre avec les côtes surexploitées et tout ce qui est ramené par les rivières. Pas nous.
Sur son bateau, la Ferrosa, Pau travaille avec ses deux frères et trois autres employés. Mais il estime que l'Europe sera responsable de la fin d'une longue lignée de pêcheurs dans sa famille.
Le futur de la pêche au chalut de fond, je le vois noir. Tu comprendras que je ne veux pas que mes fils travaillent ici. Et on essaiera même qu'ils ne travaillent dans rien qui touche l'alimentation en Europe. Parce que l'Europe devient très idiote en sortant des plans absurdes d'une écologie mal comprise, en même temps qu'elle signe des traités comme le Mercosur qui nous ramènera des vaches dans des conditions sanitaires douteuses ou importera du poisson de Madagascar, de la Chine ou d'ailleurs. Alors il y a un moment, tu te dis, on respecte toutes vos règles et vous ne nous laissez pas travailler. Évidemment que mes fils ne continueront pas.
Ces restrictions européennes répondent à la volonté de préserver les fonds marins raclés par ces filets des chaluts. Selon les scientifiques, 80% des fonds près des côtes seraient perturbés par l'activité humaine. Quant aux zones plus lointaines, les données manquent, même si les experts estiment que les chiffres sont similaires. Emma Sebrigan Pujol, chercheuse scientifique au Centre d'études du CSIC de Blanes, est spécialisée en zones benthiques, communément appelées les profondeurs.
Le ministre peut aller voir l'Europe et demander plus de temps, plus de budget, plus d'aide, mais les restrictions devront s'appliquer. Je comprends leur demande, mais on ne peut plus aller contre ça, il faut avancer. Quant au niveau terrestre, on vise 80% des habitats dans un bon état de conservation, alors pourquoi on ne l'applique pas aux fonds marins? Parce qu'il y a une grande méconnaissance et que pour les gens, la mer, c'est juste bleu.
Pour la scientifique, l'homme ne peut se permettre de continuer à détruire les fonds marins comme aujourd'hui, mais elle estime que cette prise de conscience doit être une décision collective.
Si on pense que c'est les uns contre les autres, on fait fausse route. Il faut qu'on trouve une manière de le faire en les aidant et faisant tous un effort. Eux, moins pêcher. L'État, en investissant dans des panneaux moins destructeurs. Et bien sûr, les prix augmenteront, on devra sûrement payer plus. Mais voyons cela comme une opportunité. Enfin, nous avons des lois qui protègent des zones qu'on détruit depuis des décennies.
Ces mesures ont relancé les débats en Espagne, où les arguments économiques, alors que le secteur emploie 17 000 personnes dans le pays, s'opposent aux arguments écologiques.
Entre Bruxelles et le Royaume-Uni aussi, la pêche est un sujet qui fâche. À Londres, le nouveau gouvernement travailliste a beau vouloir améliorer les relations post-Brexit avec l'Union européenne, l'interdiction de la pêche au fond annoncée le printemps dernier est un casus belli sur lequel les Britanniques refusent de transiger. L'affaire est désormais devant la Cour permanente d'arbitrage de La Haye. Les détails avec notre correspondante Marie Billon.
Les Britanniques disent vouloir protéger la vie marine. Les pays européens, eux, assurent défendre le droit de leurs pêcheurs. Depuis 2024, le Royaume-Uni a décidé d'interdire la pêche au lançon en mer du Nord, son but protéger ce petit poisson et son rôle dans l'écosystème marin. Londres a aussi annoncé l'interdiction du chalutage ou pêche de fond dans certaines de ses aires marines protégées, notamment dans la Manche. Les pêcheurs français, entre autres, y voient une attaque. Paris estime que ces décisions vont à l'encontre de l'accord de bonne entente signé avec Londres dans le cadre du Brexit, la sortie de l'Union européenne. Les Britanniques assurent que ce n'est pas le cas, car leur décision ne discrimine pas les pêcheurs européens, elle s'applique aussi aux pêcheurs britanniques. D'ailleurs, les organisations environnementales soutiennent le gouvernement britannique. Nous voyons ici l'accord de commerce et de coopération signé à l'issue du Brexit, utilisé pour la première fois dans un litige qui n'a rien de commercial et qui pourrait avoir des conséquences majeures en matière de protection des écosystèmes européens, estime l'association environnementale Bloom. Londres dit vouloir améliorer les relations avec l'Union européenne, mais cette dispute ne va pas dans le bon sens. Le gouvernement de Keir Starmer tient tête aux capitales européennes par souci environnemental, dit-il, mais le Premier ministre, qui a rapidement dégringolé dans les sondages depuis son élection en juillet, compte parmi ses soutiens les pêcheurs, qui ont toujours craint les conséquences du Brexit et qui, en grand nombre, s'opposent depuis longtemps à la pêche industrielle européenne. S'il y a un souci environnemental dans la fermeté britannique, il y a aussi de la politique.
Théo Raison a réalisé cette émission. Retrouvez Accent d'Europe sur notre appli Pure Radio. Mais tout de suite, c'est l'heure de grands reportages sur RFI. Restez avec nous.